17, merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Je suis Didier Caramallo et je suis maintenant en compagnie de Michael Mendes. Bonjour Michael.
Bonjour Didier, merci
comment
pour ton invitation. Ça va très bien. J'ai attrapé froid un peu ce week-end, mais ça va, tout va bien.
Merci beaucoup de t'être déplacé ici jusqu'au studio de Radio Alpha pour discuter jusqu'à 13h. Entre autres choses, de ton média, j'allais dire de ton nouveau média, mais non, puisque le média Frantugal TV existe déjà depuis quelques temps, il a maintenant changé de nom, mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Raconte-nous l'histoire de Frantugal avant d'en venir justement à ce nouveau nom, l'Usagora.
Oui, on aura l'occasion de discuter du nouveau nom après. Pour Frantugal, c'est venu de plein de raisons en fait, avec la première qui est une raison assez personnelle, où j'ai eu envie en fait de partager mon expérience des médias, parce que j'ai un parcours en télévision française où j'ai participé à la production de nombreuses émissions. Mmh. Et je me suis rendu compte que en France on était encore entre guillemets assez victime d'une image qui est celle du maçon femme de ménage. Et je me suis rendu compte que du pouvoir de l'image, donc la raison personnelle elle vient de là, c'est mon goût pour l'audiovisuel et la connaissance du métier qui me fait dire que voilà, l'image a un rôle à jouer dans tous les médias. Et dans cette image-là, j'ai voulu en fait apporter une nouvelle proposition pour mettre en avant un petit peu différents parcours, ceux qu'on n'entend pas forcément, ceux qui ne sont pas forcément invités dans les médias généraux, on va dire mainstream. Et poser une question aussi, c'est comment on peut se définir en étant de double culture. Donc on peut être français au Portugal, portugais en France, mais reste ce vide entre guillemets social. Et j'ai eu envie de questionner, de documenter un peu tout ça.
Et en quelle année est apparu Frantugal ?
Alors, on a commencé à travailler le sujet en 2020. Et le lancement est arrivé... on a commencé à travailler ça pendant les périodes de confinement. On avait du temps devant nous, donc avec des amis, on s'est posé les bonnes questions. Et on a lancé le média le 25 avril 2021.
Et tu dis « on » ? Tu es accompagné dans cette aventure ?
Oui, ouais. Il y a un associé français... Mmh. Je mets un point d'honneur à dire qu'il est français parce que c'est pas toujours le cas dans les projets portugais en France. Et c'est lui en fait qui, si je te refais la petite anecdote, on était donc en période de confinement, on discutait de ça et de là et de ce qu'on souhaitait faire à l'avenir parce que tout était à l'arrêt professionnellement parlant. Mmh. Et en lui parlant de mon lien au Portugal, il m'a dit mais en fait, Michael, je connaissais pas toute cette histoire. Et maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je suis peut-être pas le seul Français à pas connaître votre histoire. Et lui-même étant, il est consultant média aussi, il travaille dans le marketing et dans l'éducation. La rencontre en fait entre les deux s'est assez faite et on s'est dit pourquoi pas lancer un média franco-portugais, donc il va parler aux luso-français, à ceux qui sont un petit peu oubliés en fait entre la question du Portugal et de la France, pour leur donner une nouvelle visibilité, une nouvelle représentation. Et dépasser, je dis pas casser les clichés parce qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas dépasser les clichés avec un récit collectif qui puisse être que les personnes puissent s'approprier pour se dire mes parents étaient femmes de ménage ou dans le bâtiment, ça a été le cas aussi de mes parents, mais nous cette nouvelle génération, on s'est intégré en France, on a une expérience à partager, on a un vécu qui est complètement atypique parce qu'on vit entre les deux pays. On continue tous d'aller au Portugal arriver l'été. On continue tous à garder ce lien avec la famille sur place. On parle pour certains portugais et français, pour d'autres pas du tout portugais. Et un des sujets que j'ai voulu aborder, c'est cette question du parler portugais. Est-ce qu'on a besoin de parler portugais pour se sentir portugais ? Et ça m'a ouvert à plein de questionnements à la suite.
Et justement, ce parler portugais, il se sent très bien dans ce nouveau nom, du coup, qu'a Frantugal, qui est l'Usagora.
Oui, exactement. Alors, pareil, je vais raconter plein d'anecdotes aujourd'hui.
Voilà. C'est parti.
On est sur toute l'histoire, donc ça permet de remettre en perspective. Au début, Frantugal, en fait, je me suis rendu compte, donc, pour ceux qui ne connaissent pas les aspects marketing, mais quand on lance une marque, on la teste auprès d'un certain type de client, un type de public aussi, et je me suis rendu compte que ça coinçait. Donc, il y avait toute une partie de la population française qui le disait très bien, Frantugal, oui, on comprend l'association France-Portugal, ok, très bien. Et en fait, il y avait une partie des Portugais qui avait énormément de mal à le dire. Donc, la génération de mes parents ou de mes oncles, et ils ne s'appropriaient pas le nom. Peut-être parce qu'il y avait France dedans. Mm-hmm. Et ça, c'est une des...
Ça, c'est une question qu'on posera.
C'est une question que je me suis posée. ou justement, est-ce que ce lien finalement avec la France posait problème, ou est-ce qu'on avait un peu honte de, à la fois du parcours qu'on a eu en France, ou ne serait-ce que de dire que la France a beaucoup fait pour nous. Et en fait, là-dedans, bah, comme ça coinçait un peu dans les deux langues, de discussion en discussion, ça fait un petit moment hein, qu'on a envie de changer de nom, ça fait déjà un an maintenant, mais le temps de prendre les décisions, de bien analyser le marché, le contexte, etc., on a décidé de lancer le nom maintenant. Mais c'était aussi pour se rapprocher avec une consonance qui puisse se dire dans les deux langues, et aussi un sens par rapport à Frantugal qui questionne beaucoup les questions d'identité, d'appartenance, d'arriver avec un mot un peu plus rond, on va dire, qui questionne vraiment la notion de lien social entre les personnes, donc de l'agora au sens latin du terme, et de ramener ça à une signification qui est dans l'ADN du média, qui est de mettre en lumière des nouvelles personnes, des nouveaux parcours, des nouveaux visages, donc à Louge, agora. Et pour répondre déjà à des questions qu'on m'a posées auparavant, Louge, ça s'écrit L-U-Z. Alors pourquoi pas le Z dans l'Usagora? Simplement parce que visuellement, ça faisait une consonance très hispanique, d'origine d'Espagne, quoi. Et on a voulu contourner, on va dire, cette notion-là en le rapprochant de l'Uso, l'usophone. Donc l'Usagora avec un S pour la lumière maintenant, mettre en lumière maintenant tous les parcours qu'on a en France, parce que je trouve qu'on a énormément de talents en France qui ne sont pas assez mis en avant.
Et exactement, et ce que tu disais aussi, faire de ce média un espace de rencontre entre tous les Portugais, toutes les Portugaises, tous les luso-descendants qui voudraient en savoir plus sur leur culture et en même temps se questionner sur leur relation à la France. Quelle différence donc fondamentale entre Frantugal TV et l'Usagora? Le nom a changé, mais quelle est la différence fondamentale?
Bah finalement, pas grand-chose, parce qu'on garde notre ADN de base qui est, comme tu l'as dit, de favoriser les rencontres et de mettre en avant des nouveaux parcours. Donc l'ADN en fait, du média est toujours le même. La question du lien social, c'est quelque chose qui est très importante pour moi. Je considère que les médias radio, presse, télé, vidéo, permettent de créer ce lien social entre les personnes et d'aborder des questions qui, des fois, sont problématiques. Exemple, la question des clichés ou exemple, la question de la représentation des Portugais en France. Construire un petit peu ce lien social, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental par rapport à mon expérience en télévision où j'ai participé à la production d'émissions qui sont énormément en lien social. Pour aller un exemple tout simple, Pascal le Grand Frère, auquel je me suis occupé de la production de cette émission pendant quelques années. On est à 200% sur la résolution de problèmes et la création de liens sociaux.
Oui, c'est une émission sociale à 100%.
Exactement. Et dans mon parcours, j'ai été amené à produire ce genre d'émission. Et ça m'a toujours intéressé, cet impact que l'image, en tout cas l'audiovisuel ou le contenu vidéo, maintenant les médias sont en pleine évolution, en pleine transformation. Donc il y a plein de façons de qualifier ce que je dis. Mais cette question de l'impact de la vidéo sur l'imaginaire, sur la capacité des personnes à se représenter le réel, à se représenter eux-mêmes et à parler d'eux, bah pour moi, elle était importante. Et je me suis rendu compte aussi que ça pouvait participer à ce vide, entre guillemets, qu'il y a sur le récit national de l'immigration portugaise en France, où on a du mal à raconter notre histoire, on a du mal à parler de nous, comme si c'était pas intéressant, alors qu'il y a énormément de personnes que ça intéresse.
Donc, ce média, l'Usagora, qui existe depuis Frantugal et qui maintenant évolue pour que son message et ses objectifs soient affichés plus clairement possible, est un média donc qui se veut ouvert sur la France et non pas simplement exclusivement sur le Portugal. Mais quels seraient les objectifs de l'Usagora que Frantugal n'aurait peut-être pas atteint?
Il y a un des objectifs que j'ai pas réussi à atteindre sur Frantugal et qui continue d'être un de mes objectifs, c'est celle de créer, de stimuler le débat sur des questions très fondamentales et en français, avec par exemple l'apprentissage de la langue portugaise, la notion de ce que c'est qu'être, se définir franco-portugais ou luso-français comme on veut, vraiment questionner ça et de créer le débat entre plus d'intervenants. Jusqu'à présent, on s'est focalisé, particulièrement moi dans les interviews que j'ai réalisées, je me suis focalisé sur des récits personnels et on va dire à une seule personne. C'était la personne qui racontait son parcours, qui présentait son expérience. C'était nécessaire pour arriver à un sentiment collectif, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas les seuls à avoir tel petit problème, telles petites interrogations, ou avoir vécu simplement la même expérience. On pourrait parler, dans les meilleures expériences, on pourrait parler de cette relation qu'on a au Portugal au mois d'août, dans les expériences un petit peu moins réjouissantes, on peut parler aussi d'un sentiment, et je parle juste d'un sentiment de racisme en France envers les Portugais. Ce sentiment de se sentir inférieur, ce sentiment de se sentir pas assez légitime. L'idée, c'était de passer par ces récits individuels pour arriver à construire un récit collectif. Maintenant, je pense que c'est l'heure et qu'on arrive à créer du débat à plusieurs et arriver à une situation où on s'enrichit les uns les autres.
Et nous allons continuer à créer ce récit collectif ensemble, Michael, dans un instant, juste après une courte pause. Merci d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez toujours, plus précisément encore, l'Alpha 10 13. Je suis toujours encore en compagnie de Michael Mendes, fondateur, créateur du média de la communauté portugaise en France, Lusagora. Michael, est-ce que les gens te prennent au sérieux? Je pose cette question qui peut paraître un peu abrupte, mais quand on est jeune comme toi, quand on crée un média dans une communauté où existe déjà l'Uso Journal, l'Uso Press TV, RFI en langue portugaise, Radio Alpha, entre autres, comment exister? Il faut jouer des coudes?
Eh ben, déjà, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils me prennent au sérieux? Ça dépend. Je sais que certains, oui, sinon j'en serais pas arrivé là aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la communauté portugaise qui ne m'a pas du tout pris au sérieux. Pas du tout, déjà dans mon expérience personnelle. Donc, on pensait que je m'étais levé un matin et que j'allais lancer ça dans la chambre avec mon petit ordinateur. Et aussi dans l'impact que ça pouvait avoir sur le tissu social. Donc, ne serait-ce que de changer de discours, d'ouvrir un peu, justement, notre communauté portugaise à une population qui n'y connaît rien, enfin, qui ne nous connaissent pas dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos problématiques aussi. Et au début, ouais, on m'a pas du tout pris au sérieux pour une partie de la communauté portugaise. Et heureusement qu'une partie française, pour le coup, et c'est pour ça où... dans Frantugal, il y a France, comme on dit souvent. Et c'était une volonté pour moi aussi de mettre en avant ce lien avec la France qui, pour moi, m'a rendu énormément service et qui m'a permis d'avoir cette expérience-là. J'ai fait mes études en France, j'ai grandi en France, mon réseau télé est principalement français. Et ça a été très étonnant, voire même perturbant pour moi, d'avoir des soutiens français qui ne sont pas portugais, qui n'ont aucun lien avec la communauté portugaise de France, alors que certaines portes de la communauté portugaise se fermaient devant moi. Et je me suis dit, ouais, c'est bizarre, je fais un truc pour les Portugais, mais c'est pas eux que ça intéresse. Donc ça a été le premier truc où je me suis vraiment questionné. Et puis, on m'a aussi pas pris au sérieux pour l'impact que ça pouvait avoir au niveau des Portugais en France. Pour ça, je vais reprendre un exemple tout simple, en fait, ce qui a lancé le média un peu par la force des choses et même pas par volonté personnelle. C'est une vidéo qui a été faite, enfin une chronique radio plus exactement, qui a été faite par Philippe Cavrivière en 2021, où il se moquait, on était en période de confinement, et il se moquait un peu de l'image des Portugais, du Portugal, et il a fait quelques amalgames sur les personnes, sur les Portugais de France. Et ça a été très mal pris au point où il a reçu des menaces de mort par message privé, il y a sa famille qui a été menacée. Et là, ça s'est venu toucher une fibre en moi portugaise où je me suis dit, putain, on peut pas avoir cette image-là en France. Pas après tout ce que nos parents ont fait, on peut pas tout gâcher sur un coup de sang en disant, ouais, il a critiqué le Portugal. Déjà, c'était de l'humour. Mais en même temps, c'est venu, pour moi, signaler un peu, finalement, le travail qu'on avait commencé à faire. C'est ce problème social qu'il y a en France sur la représentation du Portugais. Qu'est-ce que c'est qu'être Portugais en France? Et c'est venu... montrer du doigt, à mon avis, certains problèmes ou certaines tensions qu'il pouvait y avoir auprès des Portugais, des tensions qui parfois sont gardées intimement par chaque personne et dont on n'a pas conscience qu'elles sont quelque chose de vécu collectivement et qu'on pourrait dépasser assez facilement, en fait. Et du coup, il a fait sa chronique, pour résumer ça. Il a fait sa chronique, il a été menacé de mort, il a reçu des insultes, il n'était pas bien traité par les Portugais. J'ai eu deux injonctions à ce moment-là. D'un côté, j'avais des Portugais qui avaient connu les débuts du média et qui me disaient « mais vas-y, entre guillemets, défonce-le, dis-lui que c'est ni fait ni à faire, etc. » Et j'avais d'un autre côté mes partenaires français, qui jusqu'à présent, c'est eux qui soutenaient le média financièrement, administrativement, et qui me disaient « faut essayer d'arrondir les angles ». Et en même temps, ça vient nous montrer qu'on fait pas ça pour rien. Donc on a joué des coudes, oui, pour essayer de le contacter. Je me souviens, c'est David Gonçalves que j'embrasse, qui m'aide beaucoup au développement du média, qui avait réussi à le contacter en premier et qui me dit c'est bon, il m'appelle, il me dit c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, on va l'avoir en interview. Et du coup, on se rappelle, on prépare un peu l'interview et la volonté c'était de créer cet entre-deux, de dire ok, oui, il y a des blagues qui sont pas passées parce que t'es venu toucher notre orgueil, notre fierté portugaise. Mais en même temps, c'est un peu vrai ce que tu dis. Parce que ça vient questionner la place des Portugais en France. On est beaucoup, et pourquoi on se révolte pour une petite blague un peu stupide, quoi. Et ça, c'est venu. On l'a rencontré en entretien, en interview. C'est toujours disponible. Il faut remonter le fil d'actualité sur les réseaux sociaux très loin, mais c'est toujours disponible sur les réseaux. Et on l'a rencontré justement pour construire ce lien, comme je le disais précédemment, pour faire ce lien entre on a un problème, et on va le résoudre en discutant, en étant courtois, en étant respectueux, et pour moi, en rendant hommage au parcours de nos parents, tout simplement. Parce que mes parents, pour le coup, mais je pense que c'est commun à beaucoup d'entre nous, sont des gens très respectueux, qui aiment beaucoup vivre en France, qui n'aiment pas le conflit, qui n'aiment pas rentrer en guerre pour des conneries. Et là-dessus, pour moi, c'était vraiment leur rendre hommage, quoi. Leur dire, ok, oui, on va se faire respecter, on va dire, ok, maintenant, il y a des répondants en face quand il y a des critiques, et qu'on perçoit mal, qu'on a ce sentiment qu'elles ne devraient pas passer. Mais en même temps, on ne va pas être dans l'agressivité. On ne va pas être dans la revanche. On va plutôt essayer de construire les choses pas à pas. Et donc, cette première interview est venue complètement chambouler l'agenda parce que c'est arrivé début avril, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et on était en train de préparer le lancement le 25 avril. Donc, c'est venu un peu chambouler tout l'agenda. Mais en même temps, c'est venu me confirmer que... on a des frustrations en France qui ne sont pas exprimées parmi les Portugais de France et qu'on a tout intérêt à essayer de construire notre récit collectif pour se dire, ok, en fait, nos parents, oui, c'était pas évident quand ils sont arrivés en France, pour toutes les histoires qu'on connaît. Maintenant, nous, on a grandi, on s'est inséré, on a des amis, on a une vie en France et on doit, entre guillemets, les remercier pour ça et faire notre possible pour continuer de garder ce lien au Portugal parce que c'est vraiment important pour chacun de nous, quoi.
Qu'est-ce qui nuit, selon toi, Michael, l'image des Portugais en France ? Parce que tu parlais de l'humour.
Oui, c'est vrai que l'humour, c'est un invité que tu as déjà reçu, c'est Thiago Martins, là, j'y pense fortement en t'entendant me dire ça. C'est le fait qu'il n'y avait que de l'humour. Alors, il y a deux points de vue, il y a deux façons de regarder cette question-là. Il y a beaucoup d'humour parce que peut-être il y a cette frustration non exprimée qui a besoin d'être transcendée, d'être amenée vers autre chose, et l'humour permet ça, bien sûr. Et en même temps, il y a une espèce de monopole des clichés humoristiques. C'est très beaucoup d'imitations avec des accents, beaucoup de clichés autour du bâtiment, du maçon, de tout ce qui a fait l'histoire de l'immigration portugaise. Et pour moi, c'est ça qui a créé une image un peu humoristique, pas sérieuse, où le Portugais, il est gentil, mais on le laisse dans son coin parce qu'il va bien travailler, il va pas faire de bruit. Mais pour moi, ça limite beaucoup trop ce que c'est que la culture lusophone, au sens large, et ce que c'est que ce sentiment d'appartenance à un pays que parfois on connaît très mal. Il y a beaucoup de fantasmes sur le Portugal, l'Eldorado de l'Europe, ce pays où il fait tout le temps beau, alors que parfois il pleut, ce pays où c'est merveilleux de vivre là-bas. Mais quand on se confronte aux réalités du Portugal, on se rend compte qu'on le connaît très peu. Et voilà, j'ai voulu aborder tous ces sujets-là.
Et cet humour-là n'est-il pas un signe d'un racisme ordinaire dont les Portugais souffriraient particulièrement en France ?
Ordinaire, voire même complètement banalisé. Mmh. C'est-à-dire que c'est normal de dire... tu sais, je partageais mon expérience personnelle pour le coup. Je travaille donc dans les médias depuis plus de 15 ans. Je travaille dans des entreprises, des institutions culturelles connues, reconnues. Et même comme ça, quand on me voit arriver, et que forcément j'assume beaucoup mon côté portugais, on me dit toujours « mais t'es pas dans le bâtiment, qu'est-ce que tu fous là ?» Et là, ça vient, alors c'est une petite blague, mais qui vient remettre en question tout un sentiment d'appartenance, voire une représentation du monde.
Et qui installe tout de suite un rapport entre ton interlocuteur et toi.
C'est ça, un rapport parfois de supériorité.
Exactement.
Qui permet de s'affirmer, de dire, ok, le petit portugais, il va faire ce qu'on lui dit. C'est peut-être de là que je tire mon, entre guillemets, sale caractère, où moi j'ai toujours répondu, où, en disant, oui, c'était le cas de mes parents, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Par contre, oui, je peux faire ci ou ça dans le cadre professionnel. Et c'est aussi ça qui m'a rendu service, dans le sens où j'ai gardé cette humilité d'accepter cette critique ou cette offense qu'on me faisait. et puis en même temps de faire deux fois mieux que ce qui était attendu. Et là, souvent, ça a créé une dynamique où les personnes, au bout de quelques temps, me respectaient pour ce que j'étais et pour la qualité de travail que je pouvais fournir, qui pour moi est très propre à notre éducation portugaise. Et au-delà de ça, ça m'a permis aussi de dépasser ces blagues-là en leur expliquant, tu sais, en fait, ta blague... souvent, j'entends sur les réseaux, je vois passer des commentaires. Je ne sais pas si ça va faire débat, si on peut en parler ici. Mais si on était africain ou origine du Maghreb, on ne s'écraserait pas comme ça. Et ça vient me perturber parce que c'est vrai. Et en même temps, peut-être que tant mieux. Au moins, on ne vient pas non plus alimenter une crise sociale. Et au contraire, on la contourne à notre façon. Mais en même temps, est-ce que c'est normal d'accepter tout et n'importe quoi ? Ce qui m'a le plus choqué, c'est que moi, je pensais que c'était réservé à notre génération. Donc moi, je suis de 86. Je pensais que c'était notre génération et que quand on avait grandi, on amenait tous ces clichés-là. Là, ça m'a le plus perturbé, c'est en discutant avec des personnes qui ont commencé à suivre Frantugal, qui témoignaient justement de racisme pour leurs enfants. Où c'était des gosses qui avaient 8-10 ans. Alors, c'est sûr, on fait toujours des blagues dans les cours de récré. Mais qui, eux, le vivaient mal. Le problème, c'est pas la blague, c'est comment elle est perçue. Et les enfants le vivaient mal. Et pour beaucoup, je pense que ça a alimenté un sentiment d'avoir honte d'être portugais. Et moi, c'est à eux que je parle en premier, en leur disant qu'ils n'ont pas de raison d'avoir honte d'être portugais, qu'ils peuvent être fiers de leurs origines et fiers de leur parcours aussi. Et pour rendre cette fierté palpable, je pense que ça passe par le partage d'expériences et les interviews, notamment, qu'on peut retrouver sur Frantugal, qui s'appelle maintenant Lusagora. Et j'ai remarqué que tu as déjà changé le nom dans ton introduction.
Absolument. Est-ce que tu as déjà reçu ce genre de remarques de la part de Portugais, et non pas de Français ? Puisque tout à l'heure, quand on évoquait la place de Lusagora dans la communauté portugaise, tu as toi-même dit qu'il fallait jouer des coudes, puisque la communauté t'avait plus souvent que la française fermé la porte, la communauté portugaise. As-tu déjà eu ce genre de remarques d'un Portugais ?
Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Alors, de cette forme de volonté de prendre la supériorité sur l'autre, ça, oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé, où j'ai eu besoin de me justifier sur mon parcours, sur mes expériences, sur mon nombre d'expériences, sur ce que j'avais fait, sur la qualité de mon travail, alors que moi, dans un cadre strictement français, généralement, on fait appel à moi et puis on fait confiance et puis c'est parti et tout se passe bien. Du côté portugais, oui, j'ai eu parfois des petites tensions comme ça. Surtout où arrivé un moment, un stade où j'ai voulu parler de ces clichés autour de l'humour, où on m'a gentiment dit qu'il fallait pas en parler du tout et que qu'il fallait plutôt passer à autre chose, quoi. Donc pour moi, c'était justement la volonté d'en parler qui allait nous faire passer à autre chose, qui allait pouvoir nous permettre de montrer qu'il y avait d'autres choses que les femmes de ménage et les maçons, pour faire simple. Et au début, oui, j'ai eu des réticences où pas trop envie d'en parler, pas trop envie de partager son expérience.
Mais donc une forme de censure de la part de la communauté portugaise.
Exactement. Et là, tu utilises le bon mot parce que j'ai lancé le média le 25. J'ai choisi la date du 25 avril parce que ça fait référence à la révolution des œillets. La révolution des œillets qui a tout fait pour lutter contre la censure de l'État et la censure de la PIDE. Et à cette époque-là, c'est là où c'est venu le plus percuter mes valeurs, où je me suis dit, ok. Donc en fait, on est dans une culture de la censure qui est très grande en France et on s'empêche de parler de nous-mêmes pour diverses raisons et variées. À tel point où j'ai rencontré une experte de la psychologie de groupe, donc de la psychologie transpersonnelle, où je lui ai posé ces questions-là. Cette interview est aussi disponible sur le média, où on a parlé de la place du groupe. Donc comment un groupe se constitue, etc. Et comment on arrive à dépasser un petit peu les clichés et toutes les réticences qu'il peut y avoir. Et sur cette censure, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes soit qui faisaient de l'auto-censure, donc qui me disaient « mon histoire n'intéressera personne », alors même que d'un point de vue professionnel, c'est des récits qui sont fantastiques. Et en même temps, cette censure d'un espèce de monopole qui s'est mis en place depuis les années 60-80, depuis la première vague d'immigration, le plus gros contingent, je ne vais pas dire première vague parce que ça fait débat, mais en tout cas l'arrivée du plus gros contingent portugais en France, où il y a une espèce de monopole qui s'est installé avec des organisations, avec une image du portugais de France qui convenait à tout le monde et qui permettait de transmettre toujours ces mêmes discours. Moi, j'ai eu envie d'amener de la diversité, justement, d'encourager dépasser la censure, aussi pour notre histoire personnelle. Nos parents, mes parents, je ne suis pas le seul, ont connu la dictature de Salazar, où il fallait rien dire, il fallait rester dans son coin, il fallait surtout ne pas faire de bruit. Pour moi, reproduire ce mécanisme-là, c'était dangereux, surtout dans la période actuelle.
Tu dirais que les Portugais se tirent dans les pattes ?
Oui, c'est une expression que j'ai déjà utilisée souvent, où ils se tirent dans les pattes. Et pareil, j'ai eu besoin de comprendre ce mécanisme-là avant d'en parler. Et on m'a expliqué, pour des raisons sociologiques de l'immigration, qu'il y a beaucoup de familles qui sont arrivées en France, et une fois que la famille s'est établie, il y a une concurrence qui se met pour être mieux que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà au Portugal avec les immigrés et avec les Portugais. Mmh. On a tous besoin d'avoir la meilleure maison, la meilleure voiture, les meilleurs enfants qui ont fait les meilleures études, etc. C'est quelque chose qui est très humain. Je pense qu'on le partage avec beaucoup d'autres communautés. Ce qui rend ça très portugais, c'est peut-être cette jalousie qu'il y a entre nous et cette volonté parfois de nuire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lancer un projet, on va essayer peut-être de lui mettre des bâtons dans les pattes ou lui tirer dans les pattes, comme je dis souvent, alors que la force du collectif, pour moi, est bien plus grande.
Oui, on dit souvent le plaisir est individuel, le bonheur est collectif. Est-ce que tu trouves que la différence fondamentale dans notre communauté, c'est une différence de génération, une différence de classe ? Qu'est-ce qui participe ? Qu'est-ce qui nourrit justement cette confrontation, cette jalousie ?
Peut-être les deux. Peut-être les deux. Je vais peut-être la classe et tu as dit quoi en premier ?
Génération.
Génération, voilà, c'est ça que je voulais revenir. Pour déjà parler des classes sociales, oui, parce qu'il y a eu différentes vagues d'immigration avec différents contextes sociaux qui sont complètement différents. Il y a eu de l'immigration politique, il y a eu de l'immigration économique. Et là-dessus, tu as forcément des dynamiques de groupe qui se créent et qui amènent tout un lot de tensions. Donc la différence entre les classes sociales, on peut la voir avec d'un côté les fêtes très populaires, les fêtes associatives, etc. Où j'adore aller le week-end de temps en temps, hein, bien sûr. Et aussi les événements très très culturels, considérés d'événements de l'élite, entre guillemets, de l'élite culturelle, où c'est réservé un tout petit nombre dans des contextes pour participer qui sont très compliqués. Et ça crée cette fracture qui, pour moi, était alimentée aussi par le côté générationnel où je me sens quand même différent de mes parents. Mes parents sont arrivés en France avec cette idée de « on retournera au pays ». Moi, j'ai grandi en France en me disant « merci à la France, grâce à vous, je peux retourner au Portugal et je peux vivre ici décemment ». Donc, il y a cette question générationnelle qui vient se coupler avec tout ce qu'on a dit avant et qui crée, pour moi, oui, cette fracture où on le voit très bien dans le paysage français, mais ça se reproduit aussi dans la communauté portugaise de France, où les anciennes générations ne comprennent pas les jeunes et les jeunes n'ont pas forcément envie de supporter certaines frustrations ou certaines souffrances que les anciens ont connues et qui est légitime, mais qui ne nous concerne plus personnellement. Et sur cette dynamique-là, c'est ce qui m'a motivé, moi, à différencier, à vraiment varier les différentes personnes que j'ai interviewées, où j'ai essayé de faire ce lien intergénérationnel en allant discuter avec des anciens qui me partagent leur expérience et en discutant avec des très jeunes, donc de la vingtaine de maintenant, pour qu'ils nous partagent aussi, eux, leur expérience. Une chose est sûre, ce qu'on a en commun, c'est notre amour indéfinissable pour le Portugal, sur ce lien qu'on peut garder avec ce pays, cette culture. Et au quotidien en France, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça, là-dessus, on est tous d'accord.
Et un argument d'attaque assez fort dans les générations plus âgées concernant les jeunes, c'est leur rapport à la langue.
Oui.
On renvoie surtout, et beaucoup, les jeunes au fait qu'ils ne parlent pas ou parlent mal portugais, ou tout simplement qu'ils s'amusent à parler français.
Oui, ou qui font l'amalgame entre les deux langues. Et c'est une erreur que nous, on a pu faire au tout début, qu'on a essayé de corriger assez rapidement, en parlant très bien portugais et en parlant très bien français. On m'a reproché, moi, personnellement, de ne pas parler portugais. Les personnes ne me connaissaient pas, donc ne connaissaient pas mon parcours. Et ne savaient pas que je parlais portugais, je ne vais pas dire très bien, mais en tout cas correctement. Mm-hmm. Suffisamment pour vivre au Portugal et m'intégrer très bien là-bas. Cette question du parler portugais, pour moi, elle est vraiment centrale parce que c'est source de discussion, de débat et de conflit avec chacune des générations. Et au point où, moi, j'ai eu des commentaires sur des interviews que je me suis, entre guillemets, forcé à faire en portugais. L'exercice est beaucoup plus dur que de parler dans son quotidien en portugais. Je pense que tu le sais, animer une émission, ça demande de mobiliser d'autres compétences.
Bien sûr.
de présenter une interview en portugais, pour moi, ça a été parfois difficile. Et j'ai même eu des personnes qui m'ont laissé des commentaires qui m'ont dit, si c'est pour mal parler portugais, vaut mieux pas parler du tout. Et en même temps, j'ai eu de l'autre côté des personnes qui disaient, c'est bien, ça va vous faire entraîner votre portugais. Mmh. Et tout ça dans un français très approximatif. Et cette langue, cette capacité de parler la langue, bah pour moi, c'est aussi ça qui crée une forme de rejet avec des jeunes qui ne parlent pas portugais pour diverses raisons, soit parce que les parents n'ont pas décidé de leur apprendre le portugais, soit parce que l'enseignement du portugais en France est très compliqué, soit parce qu'il n'y avait pas cette facilité ou cette appétence, il faut avoir envie de parler une langue pour la parler. Et il y a aussi cette image de la langue portugaise qui me dérange, qui est parfois véhiculée comme étant la langue des traditions, la langue qu'on doit parler parce que nos parents ont parlé portugais. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose de presque faux, presque erroné, dans le sens où la langue portugaise est une langue internationale qui nous permet à l'étranger, pour un parcours scolaire ou universitaire ou même professionnel, de nous ouvrir à beaucoup de marchés internationaux et à d'avoir des relations professionnelles beaucoup plus importantes avec des communautés qui parfois sont en lien, mais qui ont des difficultés, par exemple les économies francophones et lusophones.
Oui, je reviens simplement là-dessus. La langue portugaise, qui est tout de même la cinquième langue la plus parlée dans le monde, c'est une langue monde, c'est la plus parlée dans l'hémisphère sud, c'est des millions et des centaines de millions de locuteurs et locutrices à travers le monde. C'est la quatrième, il me semble, la plus utilisée sur Internet également. Ouais, évidemment, le Brésil a son importance, puisque le Brésil, ce sont aussi des millions et des millions de lusophones. Mais pourquoi le portugais n'est-il pas enseigné en France ?
Ben ça, faudrait poser la question aux institutions publiques, mon cher Didier. Je ne sais pas, je n'ai personnellement pas la réponse. Voilà. On peut avancer tout un tas d'arguments que les Français ne font rien. Bon, c'est peut-être possible. Que le Portugal ne fait rien, ça c'est quelque chose que j'entends souvent, que le Portugal ne fait rien pour l'enseignement de la langue portugaise en France. Et puis il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire que si les familles ne se mobilisent pas et n'envoient pas leurs enfants à l'école de portugais ou à l'association portugaise pour qu'elles apprennent le portugais, bah l'apprentissage du portugais ne va pas se faire, tout simplement. Donc je pense que ce problème de la langue portugaise en France, il est multifactoriel, plurifactoriel, je ne sais plus comment dire. Et qui nous concerne tous. Mais au-delà de ça, c'est à chacun aussi d'avoir envie de transmettre cette langue et aux enfants d'avoir envie de la parler. Moi, je remarque aussi, d'un point de vue strictement social, comme je te dis, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Sur ma génération, il y en a plein. J'ai des amis qui ne parlent pas du tout portugais. Et je me rends compte, par les interviews, par les rencontres que je peux faire, qu'il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui se sont complètement détachés du Portugal parce qu'ils en avaient honte. Et ce qui est, c'est une tendance qui ne se voit déjà plus du tout avec les jeunes générations de maintenant, et peut-être l'Euro 2016 qui est venu redorer un peu l'image du Portugal, où maintenant tous les jeunes ont envie d'apprendre le portugais et ont envie de parler cette langue-là, voire même de retourner au pays vivre là-bas. Mais ça, c'est un autre sujet.
Oui, mais je trouve même qu'il y a un effet inverse, puisque c'est une question que je voulais te poser. Pourquoi les Portugais, selon toi, ont-ils un rapport parfois si conflictuel à la France ? Je pense surtout aux jeunes générations qui parfois ont une véritable haine de la France et ils l'expriment particulièrement, par exemple, lors des manifestations sportives.
Ah, c'est un sujet très intéressant. J'ai voulu justement mettre aussi cette question de la France au cœur des discussions parce que j'ai souvent entendu dans mon parcours des critiques envers la France, une haine de la France, comme tu dis. Et c'est vrai que les jeunes générations préfèrent se dire « je suis portugais » plutôt que « je suis français ». Et j'entends très très peu de Portugais assumer le fait qu'ils vivent en France et qu'ils sont avant tout peut-être français.
Et ce qui est paradoxal, c'est que ces jeunes luso-français qui disent n'aimer que le Portugal et détester la France, le disent en plus très souvent en français.
C'est ce qui me fait le plus rire intérieurement. Et parfois, c'est ce qui m'a valu des discussions un peu musclées, en leur faisant remarquer. Alors, je disais, mais tu te rends compte que tu dis ça en français et que tu habites en France pendant 11 mois et que ça se résume peut-être... ta connaissance du Portugal se résume à des vacances, quoi. Donc, faut aussi questionner ce sujet chez les jeunes et leur faire prendre conscience que c'est pas en mettant un drapeau portugais sur Insta qu'on va pouvoir représenter dignement les couleurs du pays. C'est pas l'idée. Et en même temps, de ramener aussi ce lien à la France, c'est une façon de dépasser ce conflit qu'il peut y avoir et ce sentiment d'appartenance à la France, parce que c'est un pays auquel on participe tous, on paye nos impôts ici, on vit ici, nos amis sont ici. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté, c'est que ces dernières années, donc ces 10, 20 dernières années, c'est ce qui a vraiment créé un sentiment de communauté portugaise, mais refermée sur elle-même, dans un vrai entre-soi. Où, par exemple, en interview, je crois que c'est Thiago, mais je suis pas sûr, faudrait retourner voir l'interview, je crois que c'est lui qui me témoignait qu'il il parle pas spécialement de ce qu'il fait pour son action au Portugal, c'est quelqu'un qui fait plein de choses pour le Portugal, mais dans son cadre français du travail, entre guillemets, vulgairement, mais il en parle jamais. Et c'est cette question centrale qui a été abordée au tout début, de cette capacité à parler de nous, à parler de notre histoire et à la partager avec d'autres personnes, qui pour moi est dans l'ADN du média et dans ce que je veux porter, pour vraiment arriver à ouvrir, à sortir un peu du communautarisme qui s'est créé ces dernières années, et vraiment inclure toutes les personnes qui ont juste envie de connaître et peut-être qui ne parlent pas du tout portugais.
Et dans un instant, on va revenir justement sur ton média, l'Usagora, donc qui veut mettre en lumière cette frontière entre la France et le Portugal. Frontière, j'utilise ce mot parce que il veut mettre en lumière les différences entre ces deux cultures, mais aussi frontière comme un espace de rencontre, un espace où l'on traverse la frontière, un espace d'échange. L'Agora, le forum romain, l'Agora grec, l'Usagora, justement. On va continuer à en parler dans un instant. Radio Alpha. Michael, quel rapport entretiens-tu à tes parents ? Est-ce que tu te sens responsable de ton père et de ta mère ?
Ah, c'est une très bonne question. Oui. Plus je vieillis, en tout cas, plus c'est le cas. J'ai toujours réfléchi autour de cette philosophie où, quand on était enfant, nos parents se sont occupés de nous, nous ont donné tout ce qu'il fallait pour qu'on soit en bonne santé, heureux de vivre. Et je pense qu'en vieillissant, la tendance s'inverse. C'est à nous de prendre soin d'eux. Et de faire en sorte qu'en fait ils aient toutes les conditions pour bien vivre et pour annoncer un petit peu cet événement auquel on est tous confrontés, où on va mourir un jour prochain plutôt, et l'idée c'est de pouvoir les accompagner à mieux dans cette étape de vie. Donc oui, je me sens complètement responsable de mes parents.
Ouais. Je te posais cette question puisque tu en parles souvent, tu les mobilises souvent quand tu parles de ton média, l'Usagora, et que tu dis que c'est un pont entre la France et le Portugal, de la même façon que la France a su accueillir mes parents, que la France a su accueillir mes parents, que la France a su accueillir mes parents. C'est pour ça que je te posais cette question. Tu as dit également en tout début d'entretien qu'on n'arrivera pas à casser les clichés. Pourquoi on n'arrivera pas ?
Parce que c'est installé dans le paysage. Ça fait plus de 40 ans qu'on rigole parfois dessus et qu'on s'engueule parfois aussi dessus. Donc je pense que c'est complètement installé dans le paysage. C'est quelque chose aussi qui fait partie de notre histoire. Je ne peux pas nier que mes parents, mon père était dans le bâtiment et ma mère était femme de ménage. Je ne peux pas le nier. Ça fait partie de mon histoire aussi. Et ça fait partie de l'histoire de nombreux de Portugais de France. Là où, justement, je dis qu'on ne peut pas les casser, c'est qu'on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer notre histoire, mais par contre, on peut les dépasser en dépassant cette souffrance où, je ne sais pas si tu te souviens, à l'école, on demandait aux enfants d'écrire la profession de leurs parents. Mm-hmm. Il y a de nombreuses fois où j'ai hésité. Et qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je mets femme de ménage ?
Tu as déjà éprouvé un sentiment de honte ?
Oui, en grandissant, ouais. C'est pas un sentiment de honte de mes parents, mais plus de l'image des autres enfants qu'ils vont me renvoyer. Mm-hmm. Ça, ouais, c'est venu questionner quelque chose chez moi. Et c'est peut-être ça qui a fait de moi un transfuge de classe, comme Gérard Bronner, qui discute très bien de ce sujet-là. Un transfuge de classe où j'ai été catapulté dans la société française, dans des lieux culturels où mes parents ils n'ont jamais été. Mmh. J'ai été à l'école, mes parents n'ont pas été à l'école. J'ai accédé à une éducation que eux ne connaissent pas. Passer la primaire, c'était à moi de faire mes devoirs tout seul avec mon frère qui m'aidait de temps en temps ou la famille. Mais ce côté transfuge de classe, je l'ai vécu et c'est peut-être ça à un moment donné qui m'a donné envie aussi de à la fois de parler de leur parcours qui est commun à beaucoup de Portugais de France, mais en montrant l'exemple et en disant que bah oui c'était le cas, mais en fait j'en ai pas honte et au contraire j'en suis fier et je suis énormément fier d'eux.
Il nous reste 3 minutes, Michael. Où peut-on retrouver ce média, donc l'Usagora, qui s'appelait anciennement Frontugal TV, que les gens connaissent peut-être. Maintenant, ils se disent, ça a changé de nom, comment faire ?
Alors, ça a changé de nom, l'Usagora, L-U-S-A-G-O-R-A, l'Usagora. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, principalement. La plateforme est en cours de développement. On avait une plateforme SVOD, et le modèle SVOD nous a fait changer, pour des raisons économiques et financières, on a changé de pivot, et on est sur maintenant un accès au contenu qui est complètement gratuit. avec un modèle de sponsoring pour les détails. Et donc vous pouvez retrouver nos contenus, nos interviews. On a déjà commencé à reposter les anciennes interviews qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Et dans les prochains jours, on va basculer tout ce qui était payant sur Frantugal TV, on bascule en gratuit et en disponible sur les réseaux sociaux Luz Agora.
Donc Luz Agora ne sera pas payant?
Non. Voilà. C'était une réponse très franche parce que j'ai reçu beaucoup de critiques sur le fait que Frantugal TV était payant. Donc c'était un non très franc. Ça m'a poussé à me dépasser sur ce qu'on pouvait fournir en termes de création de contenu et d'envisager d'autres solutions, de continuer de vivre de mon métier parce que c'est mon métier au quotidien et d'arriver à sponsoriser, à créer du contenu et à favoriser l'émergence d'une relation France-Portugal plus stimulante.
Et Mickaël, on clôturera là-dessus puisqu'il nous reste 2 minutes très exactement. Tu as par le passé parlé d'un phénomène de phagocytation dans la communauté portugaise. Peux-tu nous expliquer ce phénomène?
Alors, en 2 minutes, je ne sais pas, je vais tenter le challenge. La phagocytation, oui. Alors, j'assume complètement mes propos, surtout quand je vois le nombre d'initiatives de jeunes qui sont proposées et que les anciennes générations, on parlait du conflit générationnel tout à l'heure, s'amusent au mieux à décrédibiliser ou au pire à empêcher le développement. Moi, j'ai connu les deux, donc j'ai connu la décrédibilisation et les bâtons dans les roues. Je pense que c'est dommage quand on voit justement cette jeunesse qui adore le Portugal. Peut-être que si les anciennes générations tendaient la main aux jeunes générations, il y aurait beaucoup moins de difficultés à porter un projet en lien avec le Portugal.
Et ton projet, il est en lien avec le Portugal, mais aussi avec la France. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, tu as cette fibre qui est très rare dans la communauté.
Oui,
on me l'a reproché.
C'est peut-être ça qui a fait qu'on m'a fermé des portes. Mais oui, je me sens tout autant 100% français, 100% portugais, et donc une vie à 200%, pour citer Emmanuel Afonso de l'Observatoire des Luso-Descendants. C'est une vie à 200%, mais j'assume les deux. C'est des agendas très remplis, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément, mais qui font du bien. Et j'invite tout le monde à assumer justement ces deux côtés-là.
Et assumons-le tous en allant retrouver tous tes travaux et toutes tes interviews sur ta plateforme, ton média, Luz Agora, sur les réseaux sociaux, qui s'appelait avant Frantugal TV. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on parle de Luz Agora. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu jusqu'ici dans les studios de Radio Alpha nous parler de ce tout nouveau média.
Merci Didier, merci beaucoup pour l'invitation. Et s'il y a des partenaires qui veulent nous rejoindre dans cette aventure, ils sont les bienvenus.
Bem-vindos. Vamos. Et voilà, l'invitation est lancée.